L'Interview, un magazine de la rédaction de BBC Afrique.
C'est en fait un sujet qui me préoccupait depuis de nombreuses années. La première fois que j'avais visité les prisons au Rwanda, c'était en 95-96. À l'époque, je travaillais pour une organisation des droits de l'homme. Et ce que j'avais vu m'avait tellement choquée, tellement bouleversée, que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour exposer cela. Surtout que dans les années qui ont suivi, la situation ne s'améliorait pas et pourtant personne ne réagissait. Donc il y avait une indifférence au niveau international. Donc c'est surtout ça qui m'a motivée à faire ces enquêtes et finalement à écrire ce livre.
Alors pour l'opinion publique internationale, quand on fait un peu des raccourcis, le Rwanda égale le génocide. Alors est-ce que indirectement, ce livre, c'est un petit peu sur les génocidaires aussi?
Indirectement, oui, mais je voudrais quand même préciser que, contrairement à beaucoup d'autres livres sur le Rwanda, ce n'est pas un livre sur le génocide. Bon, ceci dit, bien sûr, la situation dans les prisons est une conséquence directe du génocide. Et le génocide est en fait le contexte de cette situation dans les prisons. Et d'ailleurs, la grande majorité de ces prisonniers sont accusés de participation au génocide. Mais il faut dire aussi que parmi ceux-là, la plupart n'ont toujours pas été jugés. Donc on ne sait même pas lesquels sont coupables, lesquels sont innocents. Donc on les appelle comme ça de façon générale les génocidaires, comme si on savait que tous avaient participé au génocide, mais en fait dans de très nombreux cas, il n'y a pas de preuves, il y a même toujours aujourd'hui beaucoup de prisonniers qui n'ont même pas de dossier.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que la majorité des prisonniers dans les prisons rwandaises aujourd'hui sont encore des gens accusés de génocide. Et on est en 2008, le génocide c'était il y a 14 ans, il y a encore des gens qui sont toujours en prison et qui n'ont toujours pas été jugés.
Il y en a, effectivement. Ces derniers temps, il y a eu quand même certains changements, notamment des gens qui ont été jugés devant les tribunaux gachacha. Donc ça, c'est un système qui est plus ou moins basé sur un système traditionnel de participation des communautés locales. Bon, à l'origine, ce système-là a été utilisé pour des problèmes mineurs, je dirais. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment pour juger les crimes les plus graves.
On va ouvrir une parenthèse justement à propos des gachacha. Est-ce que vous avez demandé aux prisonniers ce qu'ils en pensaient, eux, de ces tribunaux gachacha?
Oui, il y a d'ailleurs tout un chapitre dans les livres qui parle des points de vue des prisonniers sur le système judiciaire et précisément gachacha. À l'époque, quand j'ai fait la plupart de mes recherches dans les prisons, c'était en fin 2004. Donc c'était avant que le système n'ait vraiment démarré, le système gachacha. Mais déjà, il y avait eu les premières étapes. Bon, les prisonniers, il y en avait certains qui étaient assez optimistes par rapport à ça, qui disaient, bon, tout le monde va m'innocenter dans le tribunal gachacha. D'autres étaient plutôt pessimistes et n'avaient vraiment aucune confiance dans ce système parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait aucun critère, aucune norme. Il n'avait pas droit à un avocat dans ce système-là. Donc il y avait un mélange de points de vue, je dirais. Mais la plupart, surtout que beaucoup avaient été en prison pendant plus de 10 ans sans jugement, sans interrogatoire même, se disaient que peut-être ça pourrait être une occasion enfin de devenir devant un tribunal et peut-être d'être acquitté.
Votre livre, on doit le ranger dans quelle catégorie? C'est un documentaire? C'est un recueil de témoignages uniquement? Vous le rangeriez dans quelle catégorie?
J'ai essayé de l'écrire d'une façon qui le rend peut-être difficile à mettre dans une catégorie précise. En tout cas, ce n'est pas un livre de recherche universitaire, je dirais. Il est écrit d'une façon qui, je l'espère, est accessible même à des gens qui ne connaissent pas très bien le Rwanda. Mais c'est un documentaire, en fait. Donc c'est un livre qui décrit la situation dans les prisons. Qu'est-ce que ça représente pour un être humain de vivre dans ces conditions-là? Mais c'est un livre qui est basé sur les témoignages des prisonniers. Donc j'ai recueilli plus de 200 témoignages de prisonniers dans différentes prisons rwandaises. Et donc c'est un livre qui présente la situation vue, je dirais, par les yeux des prisonniers eux-mêmes. Donc il y a toutes sortes de points de vue là-dedans, dont certains que je partage et d'autres que je ne partage pas. Mais surtout, c'est un livre qui décrit de façon factuelle la situation dans les prisons depuis la fin du génocide, donc depuis 1994 jusqu'à 2004 essentiellement.
Vous, dans ce livre, vous n'intervenez jamais à titre personnel. Vous ne dites jamais ce que vous pensez.
Quand même un petit peu, surtout dans l'introduction, pour expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre. Et bien sûr, il y a quelques impressions personnelles aussi, surtout quand j'ai décrit la période qui était peut-être la plus grave entre 95 et 98-99, quand les conditions étaient vraiment si terribles que, en fait, ce sont des choses qu'on ne peut pas imaginer si on ne les a pas vues soi-même. Donc en 98, il y avait à peu près 130 000 prisonniers dans ces prisons sur une population de entre 7 et 8 millions. Donc vous voyez un peu ce que ça représente. Et les gens étaient entassés là-dedans, littéralement entassés. Donc les gens n'avaient même pas un lieu pour dormir. Il n'y a pas de cellules dans les prisons, donc ce sont des blocs, des bâtiments. Et là-dedans, il y a des rangées de planches à différents niveaux. Et l'espace pour un prisonnier, l'espace typique, c'est un espace de 40 cm. Et c'est là où chaque prisonnier dort et vit. Mais même, il y en avait beaucoup à l'époque qui n'avaient même pas ces 40 cm, donc qui étaient obligés de dormir entre les jambes de leurs camarades, par exemple. Et beaucoup qui n'avaient même pas de place à l'intérieur, donc ils dormaient à l'extérieur dans la cour, sous la pluie, sous le soleil. Et même vers 95-97, il y avait tout un groupe de prisonniers qui ne pouvaient même pas s'asseoir ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Donc c'était un groupe qui circulait tout le temps, toute la journée, toute la nuit. On les appelait, les prisonniers les appelaient Komeza en Kinyarwanda, ça veut dire continue. Et ces gens-là ne pouvaient jamais s'asseoir, jamais s'allonger, sauf si un prisonnier peut-être leur disait « voilà, prends ma place pour 2-3 heures et prends un peu de repos ». Donc c'était des conditions qui étaient vraiment inhumaines. Et donc j'ai décrit un peu dans mon livre mes premières impressions de cette situation.
Pour vous, vos conditions de travail ont été faciles? Est-ce que c'était facile d'avoir accès à ces prisonniers ou bien est-ce que vous avez dû un petit peu batailler?
Ce n'était pas trop difficile en fait. Bien sûr, il faut demander l'autorisation du gouvernement, ce que j'ai fait de manière officielle. Et le ministère de l'Intérieur, qui s'occupe des prisons, m'a accordé cette autorisation. Donc, muni de cette lettre, je me suis présentée dans différentes prisons. Bon, bien sûr, il faut aussi obtenir l'accord de chaque directeur de prison. Mais ces directeurs des prisons aussi étaient, je dirais même, assez ouverts et m'ont accordé d'assez bonnes conditions de travail même. Par exemple, j'ai passé, je dirais, en moyenne 2 ou 3 heures avec chaque prisonnier dans des conditions tranquille, plus ou moins privé. Et vous vous imaginez, dans ces circonstances-là, c'est vraiment un luxe. Donc je ne pouvais peut-être rien demander de plus.
Et les détenus vous ont accueilli comment? Est-ce qu'ils étaient soupçonneux? Est-ce que vous avez éveillé des espoirs? Comment ça s'est passé?
La grande majorité des personnes que j'ai rencontrées parmi les prisonniers m'ont vraiment bien accueilli. J'ai expliqué d'abord de quoi il s'agissait. Je ne voulais pas qu'il se trompe ou qu'il soit induit en erreur. Et la plupart étaient ravis, en fait, je dirais, soulagés de pouvoir s'exprimer. Plusieurs m'ont dit que c'était la première fois qu'on leur demandait de raconter leur histoire. Donc, ils voulaient parler même pendant des heures. Et il y en avait certains qui ne voulaient même pas s'arrêter de parler. C'était pour eux un soulagement énorme.
Et votre livre est sorti il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous savez comment il a été reçu à Kigali par les autorités?
Bien sûr, j'ai envoyé des exemplaires aux autorités. J'attends leur réaction. L'ambassade rwandaise ici à Londres est au courant et d'ailleurs est venue au lancement du livre. Donc j'attends de voir. Je devrais préciser aussi que quand j'étais en train de faire mes enquêtes au Rwanda, j'ai rencontré plusieurs autorités du ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice et d'autres. Et leurs réactions, leurs points de vue sont aussi représentés dans le livre.
Vous avez dit tout à l'heure que lorsque vous aviez décidé d'écrire ce livre, c'était pour montrer à l'opinion publique internationale ce qui se passait pour que quelque chose soit fait. Vous vous attendez à quoi exactement? Qu'est-ce qui peut être fait grâce à votre livre?
Bon, la toute première chose, c'est simplement la sensibilisation, je dirais. Ce qui est frappant en parlant à beaucoup de personnes, par exemple ici en Grande-Bretagne, c'est que les gens ne sont simplement pas au courant de cette situation. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Rwanda, pour la plupart des gens, c'est le génocide et ils ne savent presque rien d'autre. Alors, en ce qui concerne le grand public, ça se comprend. Mais en ce qui concerne, je dirais, les décideurs, par exemple, les personnes influentes dans les gouvernements, il n'y a vraiment pas d'excuse parce qu'à l'époque, ces informations étaient quand même dans le domaine public. Mais le problème, c'est, je dirais, pour beaucoup des gouvernements bailleurs de fonds, par exemple, notamment le gouvernement britannique qui est très proche du gouvernement rwandais, ces gouvernements-là ne veulent pas vraiment entendre parler de ces problèmes. Pour eux, c'est une situation qu'ils voient un peu en noir et blanc, je dirais. Le génocide, c'était quelque chose de tellement horrible qu'ils ont du mal à accepter que les gens qui ont mis fin au génocide sont eux-mêmes en train aussi de commettre des exactions très graves. Et donc, je pense que ce genre d'informations les dérange. Donc, ils ont eu plutôt tendance à fermer les yeux. Donc, j'espère que peut-être par la publication de ce livre, ça pourra un peu éveiller ces gens-là et peut-être aussi qu'ils pourront faire pression éventuellement sur les autorités rwandaises pour améliorer la situation.
Donc, je suppose qu'avant de commencer à écrire le livre, vous connaissiez déjà la situation, vous aviez déjà des idées sur la question. Et est-ce que vous diriez qu'après avoir parlé à tous les détenus, les anciens détenus, les familles des détenus, vous avez quand même fait des découvertes? Vous avez découvert des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas?
Oui, je dirais toujours, il y a toujours des choses surprenantes. Bon, ce sont les histoires personnelles des gens. Il y a toujours des choses différentes, des choses uniques. Chaque personne, chaque famille a sa propre histoire. Je dirais, dans les grandes lignes, il n'y avait pas vraiment de surprise. Bon, le Rwanda, c'est un pays que j'avais quand même déjà beaucoup visité. Je connaissais plus ou moins la situation dans les prisons. Donc, dans ce sens-là, ce que j'ai vu, et même ce que j'ai entendu, ça ne m'a pas tellement étonnée. Mais ce qui m'a étonnée, par contre, c'est, je dirais, la dimension humaine du problème. En voyant comment les gens ont réussi à survivre, bien qu'il y en ait des milliers qui sont morts, bien sûr, conséquence directe de ces conditions. Mais les gens, plusieurs des gens avec qui j'ai parlé m'ont dit que la première fois qu'ils sont entrés dans la prison, ils pensaient qu'ils ne pourraient jamais en sortir vivants. Mais pourtant, ils ont trouvé des moyens de survivre, de s'entraider mutuellement, bon, de s'exploiter aussi, sans scrupule, je dirais. Et toutes sortes d'anecdotes que les prisonniers racontent, et des choses absolument incroyables, et même parfois avec un sens d'humour assez surprenant dans ces circonstances. Oui, il y a beaucoup d'exemples dont certains cités dans le livre. Par exemple, pour citer, il y a eu un cas en 98, il y a eu une grande fouille à la prison centrale de Kigali parce qu'on soupçonnait que les prisonniers avaient des armes. En fait, ils n'en ont pas trouvé, mais bon. Alors, ils ont confisqué tous les objets appartenant aux prisonniers et les ont sortis de la prison. Et donc pour les prisonniers, c'était fini, ils avaient perdu tout ça. Alors les surveillants, évidemment, en ont profité et ont pris ce qu'ils avaient envie de prendre. Et après, ils les ont revendus aux prisonniers. Et donc c'est comme ça, par exemple, qu'un ami qui avait été en prison pendant plusieurs années, il a vu qu'il y avait un surveillant qui était en train de vendre ses propres chaussures. Donc il a lui-même racheté ses propres chaussures. Donc il y a des choses comme ça, des petites anecdotes qui sont... bon, ça montre un peu, je ne sais pas, l'imagination, la façon de survivre de ces gens-là. Un autre exemple peut-être plus émouvant, c'est... comment les familles trouvent des moyens d'aider leurs prisonniers, si je peux dire. L'argent est défendu en prison. Les prisonniers n'ont pas le droit d'avoir de l'argent, mais bien sûr, l'argent circule partout. Et les familles ont toutes sortes de petits trucs pour faire entrer l'argent dans les prisons. Et souvent, ils mettent ça dans la nourriture. Alors, il y a une femme, une prisonnière, qui m'a raconté qu'elle avait reçu un ananas de la part d'un membre de sa famille. Et dans l'ananas, il y avait un billet de 5 000 francs rwandais, mais qui était tellement bien caché qu'elle ne l'a pas vu. Et donc, elle a revendu cet ananas à une autre prisonnière qui, en le coupant, a découvert tout d'un coup qu'il y avait ce billet. Et donc, elle était très contente. Donc voilà, ce sont des exemples.